Quelle joie de vous voir ce soir en famille, autant de familles ce soir rassemblées dans cette église comme dans toutes les églises du monde. Tant de familles rassemblées, Noël c'est vraiment une fête de famille, de toutes les familles. Et je voudrais avoir quand même une pensée pour ceux qui sont seuls, séparés, éloignés de leur famille. Eh bien c'est nous ce soir, votre famille. Je leur dis cela, vous êtes pour nous, pour moi, je vous le dis au nom du Christ, un frère, une sœur, une mère, une même famille. Noël, c'est vraiment une fête de famille car à la naissance de l'enfant, le couple voulu par Dieu à l'origine de l'homme et de la femme devient une famille. C'est ce qu'on lit à la première page de la Bible. L'homme s'est uni à Ève, sa femme, elle est devenue enceinte et elle mit au monde son fils. Et elle dit alors, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Voilà son exclamation de joie, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Mais ce n'est pas tellement un homme avec l'aide du Seigneur qu'elle reçoit, ce n'est pas un acquis, elle le reçoit dans son humanité, sa véritable humanité, notre humanité. S'il fallait une comparaison, comme la Vierge Marie a reçu Dieu dans son cœur, avant de l'enfanter. Comme nous tous, nous recevons d'abord Dieu en esprit, avant de pouvoir le vivre dans notre vie. Noël est une fête de famille et tout au long de l'Avent, des quatre dimanches de l'Avent pour les paroissiens qui étaient là, j'ai repris dans mes homélies que vous retrouverez sur l'excellent site de la paroisse, l'enseignement de Jean-Paul II qu'il avait donné dès le début de son pontificat, notamment dans une exhortation sur la famille, le rôle de la famille chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'avais passé le mois d'août. Vous voyez, c'était ancien. Déjà au mois d'août, je pensais à ce soir. Je pensais à ce soir parce qu'il y avait un couple de fiancés qui avait demandé à se préparer au mariage. Et une des premières questions, il avait dit, mais c'est quoi une famille ? Une bonne question. Qu'est-ce qui fait une famille ? Bien, l'enseignement du pape y répondait, c'est une communauté de vie et d'amour qui est faite justement pour nous apprendre à vivre ensemble, à vivre dans le respect des uns des autres, de chaque personne, pour être au service de la vie. C'est grand, c'est beau le service de la vie dans une société qui puisse être en paix, harmonieuse et qui réponde pour la famille chrétienne à la mission de l'Église, d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et bien dans cette lettre du pape Jean-Paul II, Familiaris Consortio, il y a une page assez étonnante. Le numéro est facile à retenir, c'est le numéro 77. Même si on n'est plus Tintin aujourd'hui, de 7 à 77 ans, c'est 77, c'est facile. Qui dresse une liste des situations particulières de toutes les familles qui sont dans des situations difficiles, objectivement difficiles. Il y a 15 catégories, je ne vais pas vous les énumérer, on trouve de tout, presque tout. Ça commence, déjà on était dans les années 80, en 81, depuis les migrants. Les familles de ceux qui émigrent pour des raisons de travail. Jusqu'aux familles qui n'ont pas de maison. En passant par les familles qui sont incomplètes ou qui ne comportent que l'un des parents. Je pense, parce que je l'ai vu tout à l'heure, à une petite fille du catéchisme qui a perdu son papa. Ou une personne, une famille ou une personne qui souffre d'un lourd handicap. Nous en connaissons aussi beaucoup. Celles qui sont divisées. Celles qui sont divisées. Celles où il y a un malade de l'alcool. Attention ce soir. Et puis, elle mentionne même celles qui ne parviennent pas à avoir facilement un contact avec leur paroisse. Là, c'est bon. Alors, on va dire, mais il y a tout le monde quand on les prend la liste. Non, il n'y a pas tout le monde, mais pas loin. Et en réalité, c'est comme une constellation d'étoiles. Ces constellations d'étoiles que Dieu a demandé à Abraham de contempler. Et il lui a fait cette promesse, « En toi, dans l'alliance que je conclue avec toi, seront bénies toutes les familles de la terre, quelle que soit leur situation. Toutes les familles sont bénies par le Seigneur. » Même celles qui sont des situations les plus particulières. Joseph et Marie étaient dans une situation particulière. Les bergers étaient aussi dans une situation particulière. C'était les marginaux de l'époque. Mais les anges qu'on entend dans l'Évangile, les anges également. Les anges n'ont pas de famille. Les anges n'ont pas de famille. Chaque ange constitue sa propre espèce. C'est le plus grand théologien de l'histoire, saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup réfléchi à la question des anges, tel point qu'on l'appelle le docteur angélique, et qui dit que chaque ange est unique, et ce qui fait que quand un ange en rencontre un autre, il découvre ce qu'on appelle l'altérité. Il découvre la différence. Et comment est-ce qu'un ange devient un démon ? Quand il refuse la différence, la différence du tout au de Dieu, quand il refuse la différence. Et quand est-ce qu'on peut dire entre nous, « Oh, t'es un ange, t'es un ange. T'es un ange quand tu fais attention à la personne que je suis, quand tu respectes chaque personne. » Eh bien, pour Jésus, Marie et Joseph, vous l'avez entendu et vous le savez, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. On va dire, est-ce que c'était complet ? Même quand il y a du monde, il y a toujours de la place. Non, ils étaient peut-être trop différents. Et il y a donc les anges et les bergers, les deux extrêmes. Les anges sont célestes, les bergers sont très terrestres. Les anges sont des êtres purs et les bergers étaient assez cabossés, des marginaux cabossés. Mais ils avaient ceci en commun, ces deux extrêmes, d'être des gardiens. Les anges, des gardiens contre les démons, les bergers, des gardiens contre les loups. C'est ce que faisait Moïse, je vous ai parlé du premier homme, Adam, Abraham, la constellation d'étoiles. Moïse, quand Dieu est venu le chercher, il gardait le troupeau, il était berger lui aussi. Et il n'a pas vu des étoiles, il a vu le feu de l'amour divin, le buisson ardent, le feu de l'amour qui brûle sans rien consumer. Exactement comme une promesse, un avant-goût de la grande lumière qu'ont vu les bergers. Et pour être complet, après Adam, après Abraham, après Moïse, il faut évoquer qui ? David ! David, vous l'avez entendu, c'est dans la ville de David. Avant d'être le grand roi, ça a été aussi, lui aussi, un petit berger. Et c'est ce que les anges annoncent dans la ville de David, un sauveur. Et on l'entend dans l'évangile. Fils de David, viens nous sauver. Fils de David, prends pitié de nous. C'est lui le Messie qui vient rendre la vue aux aveugles, qui vient donner la liberté aux opprimés. Les aveugles que nous sommes, qui ne voyons pas souvent l'essentiel de l'existence. Les opprimés qui sont souvent détournés de l'essentiel. Et enfin ce soir, la joie des familles qui se réunissent dans la lumière de Dieu. Mes amis, la nuit, cette nuit de Noël est faite pour cela, pour se retrouver en famille, en sécurité, heureux de se retrouver, de partager ces moments essentiels de la vie. Et cette nuit, nous nous souvenons de celui qui nous a créés, de celui qui nous a aimés le premier, et de tous ceux à qui il nous a confiés. Nos parents, nos grands-parents, tous ceux qui nous ont fait grandir, tous ceux qui nous ont choyés, qui se sont occupés de nous. Et élevés, quelles que soient les circonstances, quel que soit ensuite tout ce qui s'est passé, pour chacun de nous ce soir, c'est un retour aux sources. C'est un retour à la vraie lumière. D'abord, c'est un moment de gratitude, de se souvenir, de pouvoir dire « Merci Seigneur, mais merci aussi ». Aux parents, aux grands-parents, et de pouvoir retrouver cette lumière, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour en nos cœurs, c'est le signe de la présence de Dieu en nous. C'est notre vocation à aimer à notre tour, à nous ouvrir aux autres, à faire attention aux plus petits, à ceux qui en ont besoin, aux plus fragiles. Que ce soit un nouveau-né, que ce soit un proche, une personne malade, quelqu'un de douloureux, quelqu'un qui est à l'écart, quelqu'un qui est sans famille, isolé. On dit parfois de la joie chrétienne qu'elle n'est pas très drôle. Peut-être, mais elle est délicate, prévenante, attentionnée. Exactement comme l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cette nuit, Dieu se fait petit enfant pour que nous apprenions à aimer comme il nous aime, de cet amour tout en douceur, tout en délicatesse, tout en attention et en tendresse. La joie chrétienne, elle n'est pas drôle, elle est délicate, elle est prévenante, elle est attentionnée, elle est patiente. Elle est patiente parce qu'elle sait que Dieu vient toujours pour ceux qui l'auront espéré.